Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique littéraire de passage qui porte désormais un petit nom, le marque-page. Bienvenue donc dans le marque-page. Ce nouveau nom ne modifie pas mon objectif, vous présenter chaque semaine un livre que les étudiants de notre campus puissent trouver dans les bibliothèques universitaires de Bordeaux. Comme ma toute première chronique sur Radio Campus, mon premier marque-page commencera par un souvenir de l'été dernier. J'ai fêté mon premier jour de vacances d'été par une visite dans une bouquinerie. Alors que je parcourais les étagères débordantes de livres, un titre et le nom de son auteur ont soudainement retenu mon attention. « L'émigré », écrit par Gabriel Sénac de Mélan. Deux mots me vinrent immédiatement à l'esprit, à savoir « Révolution française ». La Révolution française est une période que j'apprécie tout particulièrement en littérature. Pourtant, je n'avais jamais entendu parler de ce livre. La date de publication, précisée par la quatrième de couverture, m'a de nouveau interpellée. 1797. Le livre a donc été écrit et publié en pleine tourmente révolutionnaire. Intéressons-nous d'abord à son auteur. Gabriel Sénac de Mélan est issu d'une famille bourgeoise, originaire du Gers et de la Gironde. Ses ancêtres s'étaient enrichis par le commerce. Ils avaient ainsi pu acquérir des terres, mais aussi des charges juridiques. Plutôt que juriste, le père de Sénac de Mélan préféra devenir médecin. Ce choix le conduisit à quitter son sud-ouest natal pour Paris, puis Versailles. Pendant plusieurs années, il exerça son métier auprès de familles proches du pouvoir. À l'aube de ses 60 ans, il trouva finalement la consécration en devenant le médecin personnel de Louis XV. Il fut alors anobli par ce dernier. Son fils, Gabriel, l'auteur de L'émigré, naît donc à Versailles. Contrairement à son père, il choisit les études juridiques. Il rencontre un vif succès dans cette voie, jugé plus tôt. Il débute sa carrière en tant qu'avocat au Parlement de Paris. Peu après, il intègre le Grand Conseil, alors qu'il n'a pas 26 ans. Le Grand Conseil était une émanation du Conseil du Roi. Il était saisi de toutes les affaires que le roi préférait retirer au Parlement. Ensuite, Gabriel est successivement nommé intendant de la Guadeloupe, intendant des Îles-de-France et de Bourbon, soit les actuelles îles Maurice et de la Réunion, intendant de La Rochelle, intendant de la Provence et enfin intendant de Valenciennes. Avec le gouverneur, un intendant représente le roi en province. Si le gouverneur est compétent sur le domaine militaire, l'intendant est chargé de la gestion administrative, budgétaire, financière et juridique de la province conformément aux directives royales. À 30 ans, Sénac de Mélan disposait donc déjà d'une solide expérience de terrain qui le prédisposait à des fonctions ministérielles. Pourquoi pas contrôleur général des finances ? Il s'agit en effet d'une fonction hautement stratégique, dédiée à la gestion des finances de l'État. Afin de gagner en popularité et encourager le roi à jeter son dévolu sur lui, il se lance donc depuis Valenciennes dans l'écriture. Il publie des essais sur l'économie et la société, ou des traductions d'auteurs latins, comme Tacite. Malheureusement pour lui, ses efforts ne sont pas récompensés. L'année 1789 survient et provoque l'écroulement de la monarchie française. Comme de nombreux nobles, Sénac de Mélan choisit de quitter la France afin de fuir les persécutions perpétrées contre les Français de son rang. Ces nobles sont appelés les émigrés. Sénac de Mélan s'installe en Prusse, soit l'Allemagne actuelle. Il y publie des recueils de pensées sur la Révolution française en cours et l'œuvre qui nous occupe aujourd'hui, L'émigré. L'émigré est un roman épistolaire, c'est-à-dire qu'il est composé de différentes lettres. Son intrigue se déroule en Prusse. Elle commence par une lettre de la comtesse de Lowenstein, envoyée à sa meilleure amie, Émilie. Toutes les deux appartiennent à de nobles familles prussiennes. La comtesse de Lowenstein lui relate un événement inattendu. Alors qu'elle se promenait avec son oncle dans un bois, elle aperçoit un jeune homme, en uniforme rouge brodé d'or, évanoui au pied d'un arbre et grièvement blessé. Un autre homme est à ses côtés, éploré. La comtesse et son oncle s'empressent de lui porter secours. Les deux hommes sont ensuite transportés chez l'oncle afin que le blessé puisse y recevoir des soins plus appropriés. Ces deux hommes sont le marquis de Saint-Alban et son valet. Le marquis est un noble français émigré qui s'est engagé dans l'armée prussienne par fidélité envers la royauté française. Lors d'une bataille contre les patriotes, c'est-à-dire des Français républicains, les Prussiens sont mis en déroute par ces derniers, et le marquis, blessé, est contraint de fuir. C'est comme ça qu'il rencontre la comtesse. Pendant plusieurs semaines, la comtesse de Lowenstein et sa famille apportent tous les soins nécessaires au marquis. Le marquis et la comtesse finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. Sauf qu'un problème persiste, la comtesse est déjà mariée. Quant au marquis, il estime que son devoir est de rejoindre l'armée prussienne, une fois guéri, afin de poursuivre le combat. Si vous souhaitez connaître la suite de l'intrigue, je vous donne rendez-vous à l'abbaye de Bordeaux, où ce roman peut être emprunté. En attendant de vous le procurer, pourquoi je vous conseille ce roman ? Alors que les événements révolutionnaires se succèdent à une vitesse déconcertante, Sénèque de Mélan a choisi le roman pour rendre compte d'une situation en perpétuel mouvement. Avec la Révolution, la fiction semble envahir la réalité. Les Français assistent à la chute d'un régime millénaire et perdent par conséquent tous leurs repères. Le roman offre donc le meilleur moyen de restituer l'atmosphère et les événements qui dépassent l'imagination des Français de l'époque. Plus qu'un romancier, Sénèque est un historien à chaud de la Révolution. Il ne déroule pas son intrigue selon une chronologie rigoureuse du fait de son absence de recul sur les événements qu'il observe depuis l'Allemagne. Le choix d'un roman épistolaire permet aussi à Sénèque de confronter différents points de vue sur cette période troublée. L'alternance de lettres et d'analyses particulières marque la volonté de Sénèque de trouver un sens et une cohérence aux événements. Ce choix traduit aussi la dimension européenne de la Révolution française. L'intrigue est étroitement liée à l'évolution de la situation politique en France. Les espoirs et les craintes qu'elle suscite influencent les faits et gestes des personnages, en particulier du marquis de Saint-Alban et de la comtesse de Lowenstein. En outre, l'intrigue reflète le positionnement nuancé de Sénèque à l'égard de la Révolution. Dans la mesure où l'auteur est un noble, cette originalité mérite d'être soulignée. En outre, ce soin de la nuance présente un intérêt majeur, je dirais même qu'il relève de l'exploit. En effet, souvenons-nous déjà de la date de publication du roman, 1797. Souvenons-nous aussi que la Révolution est une composante majeure de notre roman national, et qu'à cet égard, elle s'est pendant longtemps dérobée à l'analyse méthodique et rationnelle des historiens. Sénèque est très attaché à la monarchie, qui a permis à son père et lui de réussir. Il n'accepte donc pas sa brutale remise en cause. Toutefois, il ne croit absolument pas en un possible retour en arrière, comme la plupart des nobles trop attachés à leurs privilèges. Cette dualité entre l'Ancien Régime et la Révolution est d'une part personnifiée par la comtesse et d'autre part par le marquis. La comtesse et sa famille incarnent une société aristocratique, prise dans le vertige de ses loisirs, attachée à la généalogie et à la hiérarchie des titres de noblesse. Bien au contraire, le marquis de Saint-Alban incarne la spontanéité des sentiments et une nouvelle génération enthousiaste à la recherche de valeurs qui dépassent les clivages traditionnels. Progressivement, l'amour suscite chez la comtesse une passion, qui trouve un écho dans les passions déchaînées par la Révolution française. Un dialogue entre les deux camps s'instaure. Nous pouvons donc considérer l'histoire d'amour entre la comtesse et le marquis comme la métaphore d'un programme politique défendu par Sénèque, à savoir concilier l'ordre ancien et la nécessité d'une adaptation aux nouvelles réalités politiques, sociales et économiques. Le roman propose moins une histoire sur l'émigration des nobles français vers les royaumes voisins que l'histoire d'un changement qui a rendu caduque la plupart des catégories traditionnelles. J'espère vous avoir donné envie de lire ce roman passionnant, c'est le cas de le dire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau marque-page.